Comme dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
La plus rebelle des radios.
Bonsoir, nous sommes mercredi 25 février, il est 19h passé de 2 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir un appel à la grève contre la loi Macron.
La confiscation de cartes d'identité et de passeport.
Rivalta qui fait des siennes.
Le bras de fer à la Silicon Valley.
Des facteurs multitâches.
Du Rififi à la CFDT.
Et puis, une petite chronique, il faut que ça se sache.
Et donc, on va commencer apparemment avec la lecture de la déclaration des organisations syndicales CGT, FO et Solidaire concernant la loi Macron et un appel à la grève pour le 9 avril 2015. Combattre et réduire le chômage. Permettre la création d'emplois en changeant de politique économique. Préserver les droits et tous les régimes sociaux. Garantir et promouvoir le service public, augmenter les salaires, secteur public et privé, les retraites, les pensions et les minima sociaux, constituent des priorités sociales, de surcroît en période de crise. Réunis le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO, Solidaire affirment leur détermination pour faire aboutir ces revendications et lutter contre l'austérité et ses impacts destructeurs, tant socialement, économiquement que démocratiquement. Le pacte de responsabilité, la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre de dispositions du projet de loi libéral Macron, ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et du patronat, aggravent la situation des salariés, des retraités et des chômeurs. C'est féminisé à chaque fois. De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d'ores et déjà engagées dans les entreprises, les services publics et les secteurs professionnels. Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du patronat qu'ils y répondent, les organisations syndicales, CGT, FO et Solidaire, s'engagent dans un processus de mobilisation. Conscients de leurs responsabilités, elles invitent les retraités, les chômeurs et chômeuses, à se mobiliser et appellent l'ensemble des salariés, du public et du privé, à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril 2015.
Alors je vais revenir sur une info de lundi, puisque lundi 23 février, 6 personnes se sont vues confisquer leur carte d'identité et leur passeport. Pourquoi ? Car ces personnes sont soupçonnées de vouloir allier la Syrie pour rejoindre l'État islamique et aller faire le djihad. Mais au vu de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas légalement possible d'interdire la circulation puisque, je le cite l'article, hein, toute personne a les droits de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, et deux, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Donc a priori, au vu de cette déclaration des droits de l'homme, on n'aurait pas le droit de faire ça. Eh bien si, puisque c'est depuis les nouvelles lois antiterroristes de novembre 2014. Lundi, c'était la première fois qu'ils s'en sont servis, qu'ils l'ont mis en application. Mais cet automne, le gouvernement s'était effectivement muni d'un nouvel arsenal législatif pour renforcer les dispositifs relatifs à la lutte contre le terrorisme. Alors, je vous dis une partie de le chapitre 4, l'interdiction de sortie du territoire de cette loi de novembre 2014. Donc, tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette 1. Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes. 2. ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. Voilà comment donc ces six personnes se sont retrouvées interdites de leur passeport et de leur carte d'identité. Cette interdiction de sortie du territoire est prononcée donc par le ministre de l'Intérieur pour une durée maximale de 6 mois à compter de sa notification. Lorsque les conditions sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision express et motivée, mais par contre ne peut pas excéder 2 ans, heureusement. Du coup, c'est renouvelable tous les 6 mois jusqu'à 2 ans. Et la personne qui a fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de 2 mois, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Donc voilà, c'est important de le savoir. Et le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application de cet article est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ce qui fait pas mal. Certains d'entre eux ont été signalés par leurs proches via le numéro vert mis en place du ministère de l'Intérieur là, contre le terrorisme. D'autres ont été détectés lors de multiples enquêtes actuellement menées par la police de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Donc l'identité des personnes concernées n'a pas été révélée et Cazeneuve, notre ministre de l'Intérieur, se contentait de dire qu'il s'agissait essentiellement de jeunes. Leur nom, par contre, a été transmis au système d'information Schengen, le fichier de contrôle accessible de tous les postes frontières européens. Actuellement, selon le gouvernement, une quarantaine de personnes seraient actuellement concernées par cette mesure. Et donc, alors que l'Europe forteresse a pris une nouvelle dimension, du coup, en plus d'empêcher des personnes de rentrer dans l'espace Schengen, la France interdit à des Français de se déplacer hors de ses frontières. Donc, nous, ici, on a l'impression que cela va accentuer la distinction entre les Français. Il va exister encore plus fortement une sous-catégorie de Français, souvent pauvres, d'origine diverse, musulmans. Leurs droits seront réduits à la hauteur de ceux des sans-papiers actuellement. Voilà.
Alors, on va parler de Bernard Rivalta qui fait des siennes. Et alors, ça nécessite un petit rappel, mais vous en avez sûrement déjà entendu parler. L'élection municipale de Vénissieux avait été annulée par le tribunal administratif à cause d'irrégularités, dans la liste présentée par les Nazillon, Benedetti et Gaurillac. Alors, comme Rivalta doit sa place de président du Citral, le Citral, on le répète, c'est ceux qui gèrent le réseau TCL. Donc il doit sa place grâce à son poste de conseiller municipal, enfin, en tant qu'élu du coup. Aux dernières élections du Citral, il n'a pas pu se représenter car il n'était plus élu et c'est une des conditions nécessaires pour se présenter à la tête du Citral. Alors, c'est donc son ami, grand ami de toujours, Gérard Collomb, qui s'est présenté à sa place au poste de président du Citral. Il a donc été élu, je crois, à l'unanimité, hein, comme ça se fait par chez eux, comme président. Et pour, je cite, alors là je cite Gérard Collomb, lui garder la place au chaud le temps que de nouvelles élections municipales se fassent. Alors, habituellement, à Vénissieux, le PS et le PC font liste commune. Rivalta qui...
Bon. Il s'oppose. En fait, le PS essaye de récupérer la commune au PC depuis des années. D'habitude, Rivalta, il est sur une liste dissidente du PS.
Et ouais, mais non, parce que ça colle pas ce que tu dis, parce que vu qu'il est élu à Vénissieux...
Et ouais, mais il est élu à Vénissieux, il est élu... Enfin, pas d'opposition.
Ah, mais ils font pas alliance au deuxième tour.
Non, ils font ni alliance au premier ni au deuxième tour, mais ils arrivent quand même à avoir des...
Ah, ok, d'accord. Très bien. Et bah, du coup, en tout cas, d'habitude, il se présente sur la liste du PS. Et là, bah, du coup, je sais pas, peut-être qu'il a l'impression qu'en tout cas, le PS risque de pas du tout, parce que d'habitude il est troisième, ouais, c'est ça, sur la liste PS. Du coup, oui, vas-y, précise.
Parce que pour la petite histoire, en fait, sur la dernière élection, il a failli, à quelques voix près, ne pas être élu. Parce qu'il y avait le premier et le deuxième qui étaient pris, et le troisième, c'était pas sûr qu'il soit pris, et en l'occurrence, c'était lui. Ah mince, et en l'occurrence, c'était lui le troisième.
D'accord. Et ben, c'est bien pour ça qu'il hésite à se présenter sur cette liste PS. Et a priori, du coup, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il n'est pas présent sur cette liste-là. Et il serait en tractation actuellement avec le PC pour se foutre sur leur liste. Alors pour l'instant, Michel Picard, enfin en tout cas, on ne sait pas s'ils ont accepté. Bon, Michel Picard qui a déjà quand même vendu son âme au diable un paquet de fois. On voit pas trop pourquoi elle refuserait qu'une crapule pareille vienne se foutre sur sa liste. Du coup, voilà un peu comment se passent un peu les élections à Vianney-Issue, un peu tout le microcosme politique. Pourquoi vous votez? Ben, c'est aussi pour que des gens puissent se placer bien tranquillement au chaud, au citral, depuis des années, des années et des années.
Alors on va parler d'Internet un peu et des tractations en cours aux États-Unis. Donc en fait, dans le bras de fer qui oppose les fournisseurs de services Internet, donc c'est Netflix, YouTube, Twitter, bon plutôt les fournisseurs de services qui utilisent beaucoup de bandes passantes, donc la bande passante étant les câbles par lesquels passent les données à travers notamment les océans, les trucs comme ça, mais aussi jusqu'à chez vous. Dans le bras de fer qui oppose donc ces fournisseurs de services internet aux gestionnaires des infrastructures réseau, donc ce qu'on appelle souvent les providers, donc en France ce serait Orange, Free, SFR, enfin tous ceux qui posent du câble en souterrain et des nœuds réseau. Il semble que les premiers, donc les fournisseurs de services, soient en train de remporter une victoire décisive. Les fournisseurs d'accès entendaient rompre un des principaux piliers, ce qu'on appelle la neutralité du net, ce qui veut que tous les flux d'informations et toutes les données soient traités à la même enseigne. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est que les services gourmands en bande passante se voient surfacturer cette gourmandise. Donc notamment ça concernait des services comme YouTube et Netflix qui balancent de la vidéo et donc des énormes quantités de données à chaque fois. Donc ces entreprises n'entendaient pas de cette oreille et ils ont fait du lobbying auprès du FCC, c'est-à-dire la Federal Communication Commission, la Commission fédérale des communications, qui doit donner demain son avis sur cette question. Alors, il semble que pour l'instant, on s'oriente vers une déclaration qui voudrait qu'Internet soit considéré comme un bien public et que donc son accès soit garanti de manière égale pour toutes les personnes. Alors, cette affaire est présentée principalement dans la presse comme une affaire de lutte contre la liberté de l'Internet et des méchants tyrans. On constate que c'est surtout une question de gros sous pour savoir qui va payer les surfrais engendrés par l'utilisation massive de streaming, qui est quand même une solution un peu naze en termes de diffusion d'informations, puisque les données sont retéléchargées à chaque fois et que ça implique à chaque fois une consommation énorme. Et on note que Internet est un bien public, mais l'eau, l'air et tout un tas d'autres conneries dans ce genre-là restent des biens privés.
Alors, nos amis facteurs vont avoir du pain sur la planche, pardon. On l'apprend, c'est un article du Progrès où on apprend que le facteur du futur sera multitâche. Alors, en plus de distribuer le courrier, les facteurs vont voir leur charge de travail à nouveau augmenter. Et bon, ça par contre, on n'imagine pas du tout leur salaire qui risque de ne pas bouger. Alors, le directeur des opérations de la Poste, qui se prénomme Julien Carreau, nous explique son plan. Alors, il y a des, par exemple, dans les mesures qui ont déjà été mises en place à Lyon, le facteur peut prévenir les régies des dégradations dans les halls d'immeubles. Par exemple, les boîtes aux lettres cassées, tags, portes d'entrée abîmées, etc., etc. Bon, bien évidemment, ce service est facturé aux régies qu'il demande, et pour l'instant, seule une régie dans Lyon et son agglomération a souscrit à ce service. Mais il veut, enfin en tout cas ils veulent, hein, parce que c'est pas le seul responsable, aller encore plus loin à la poste en demandant aux facteurs de relever les compteurs d'eau et de gaz et même de rendre, oui c'est vrai, et même de rendre visite à domicile à des personnes qui souscriront au service. Alors en gros, le rôle qu'avait le facteur il y a quelques temps de lien social pour plein de personnes, rôle qui petit à petit a disparu à cause des multiples restructurations, et bien ce lien-là deviendra donc payant et sur demande. Oublions donc le lien informel qu'avait le facteur avec ses usagers, les 5 minutes de discussion avec la petite famille sur le pas de la porte. Aujourd'hui, trop de boulot et moins de temps, donc fini les discussions sur ce fameux pas de porte. Sauf bien sûr si tu payes. Et donc c'est donc ça que ce qui se cachait derrière le slogan de La Poste en 2010, ce que l'avenir vous promet, La Poste vous l'apporte. Bientôt, le facteur va donc passer le permis de faire passer le permis de conduire, relever les compteurs, passer un coup de balai dans les halls d'immeubles, rouler avec un vélo qui nettoie la chaussée, ramasser les crottes de chien, remplir les déclarations d'impôts de papy et mamie, et on pourrait même les assermenter pour qu'ils puissent verbaliser les infractions au code de la route, et je sais pas, moi par exemple, on pourrait les armer pour qu'ils fassent le rôle de la police. Bref, un vaste programme pour nos amis facteurs.
Alors, ça chauffe à la CFDT. Donc la CFDT, c'est ce syndicat sympathique qui, bon, on va passer sur ce point-là. Donc la CFDT, donc la centrale de la CFDT, a mis sous tutelle son syndicat du commerce en Île-de-France. Alors un petit résumé, hein, les syndicats ont des antennes locales, des antennes régionales, puis des antennes nationales. Et après, c'est divisé en branche, et en l'occurrence, donc là, c'est l'antenne locale de la branche du commerce dont il est question. Et donc, la centrale CFDT nous annonce que, en raison d'un problème lié à la gestion interne, elle met sous tutelle donc sa section locale. Bon, ce que le Canard Enchaîné nous apprend cet après-midi, c'est que le problème de gestion interne, c'est que la section locale est un peu trop combative. En effet, celle-ci avait décidé de s'allier avec la CGT du commerce dans une structure donc, qui s'appelait le CLIC-P, bon, allez savoir, et qui luttait notamment contre le travail dominical. Le problème de cette histoire, c'est que la CFDT plus la CGT, dont le commerce francilien, représente plus de 50% des salariés. Ce qui fait qu'ils sont en mesure de repousser des accords de branche. Notamment les accords de branche permis par la loi Macron, dont on vous a parlé la semaine dernière. Donc c'était la partie sur le travail du dimanche notamment qui allait être repoussée, mais ça concerne aussi un peu toute la loi Macron, puisque à partir de la mise en application de cette nouvelle loi, le droit du travail sera inférieur aux accords de branche. Et donc, si votre syndicat négocie que vous avez le droit de travailler 60 heures par mois, vous aurez le droit de, par semaine, vous aurez le droit de travailler 60 heures par semaine. Ce qui nous donne que... mince, je me suis perdu. Voilà. En tout cas, la Confédération, voilà, ne voulant pas risquer que son syndicat de branche rejette la loi Macron, a préféré mettre sous tutelle le syndicat, ce qui veut dire qu'à partir de, a priori, aujourd'hui... Non, le 16, voilà, à partir du 16, le nouveau chef du syndicat du commerce, c'est le chef de la CFDT, qui va être en mesure de signer tous les accords qu'il voudra avec le patronat du commerce. Voilà, voilà.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre tous les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu plus les droits pour s'acharner à
j'arrive pas à comprendre que tu sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place.
Blabla, info contre la machine.
Alors, l'opération Triton va être prolongée. Pour rappel, l'opération Triton, c'est de la surveillance en Méditerranée sur les côtes italiennes. Donc, la commission de Bruxelles a décidé jeudi dernier, donc le jeudi 19 février, de prolonger jusqu'à la fin de 2015 l'opération Triton, donc de surveillance en Méditerranée, et d'octroyer une aide d'urgence, écoutez bien, de 13,7 millions d'euros aux autorités italiennes pour les aider à gérer de nouveaux afflux de migrants et de demandeurs d'asile. Rappelons que ces 13,7 millions d'euros, ce n'est pas pour aider les personnes qui vont arriver sur le sol italien, c'est bien pour les gérer et les faire repartir aussi vite qu'ils le sont arrivés. Donc il ne faut pas tout mélanger. Donc la commission a débloqué jeudi un budget de 18 millions qui permettra de prolonger l'opération. Triton, c'est coordonné par Frontex, l'agence de surveillance des frontières extérieures de l'Europe. Et le mandat de l'opération ne semble a priori pas modifié, les États refusant que les bateaux s'approchent des côtes libyennes ou d'autres pays d'Afrique du Nord. Donc l'opération Triton, elle est du sauvetage à partir des côtes européennes et non de l'autre côté. Parce qu'ils craignent un effet d'aspiration qui aurait pour effet d'accroître le nombre de personnes tentant de rejoindre l'Europe. Voilà pour leur argumentaire, toujours aussi dégueulasse. Et donc l'opération de sauvetage, un petit rappel, Mare Nostrum avait été arrêtée fin 2014, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Plusieurs pays ayant fait pression sur l'Italie en lui reprochant de favoriser les traversées de la Méditerranée. Parce que Mare Nostrum était un peu plus du sauvetage quand même que Triton, qui est vraiment de la surveillance. Des embarcations, et Mare Nostrum a effectivement quand même sauvé un paquet de gens. Et selon ses critiques, les mandats à l'exil n'hésitaient pas à se lancer dans une traversée, puisqu'ils étaient convaincus qu'ils seraient de toute façon recueillis. Donc voilà ce que peuvent raconter des gens quand même. Rome a affirmé, quant à elle, ne plus pouvoir supporter le coût d'une mission d'une telle ampleur. Bah oui, c'est sûr, sauver des sans-papiers en mer, ça rapporte pas d'argent. Mais voilà. Et donc, leur nouvel argument ultime pour renforcer la sécurisation donc de la mer et des frontières par la mer, c'est la possible arrivée de membres de groupes terroristes sur le sol européen via la Méditerranée. Donc des terroristes partiraient sur des petites embarcations pour rejoindre l'Italie et je sais pas, foutre la merde dans les centres de rétention.
Oui, parce que c'est une menace qui a été faite par l'État islamique contre le gouvernement italien.
Oui. Mais en tout cas, on a du mal quand même à imaginer ça, à part... Et du coup, on voit bien que quand même, c'est un argument fallacieux qui permet du coup le renforcement des frontières, clairement, et qui peut-être va rassurer le citoyen lambda européen qui se sentira peut-être plus en sécurité. Et alors, c'est rigolo.
Tu veux dire, en gros, si les terroristes potentiels meurent noyés plutôt que de pouvoir atteindre les côtes.
Voilà. Et en l'occurrence, toutes les personnes, puisque finalement, peut-être, derrière chaque sans-papier, il y a un terroriste.
C'est la cinquième colonne, voilà. Bien sûr.
Voilà, c'est terrible, mais voilà. Et sinon, je voulais parler un peu de la Grèce, puisque vous voyez, nouveau gouvernement en Grèce, et la Grèce est plein de promesses. Donc le commissaire grec assure que l'Italie n'est pas seule et souligne que si la politique migratoire européenne n'a pas réussi jusqu'ici, elle sera davantage solidaire à l'avenir. La solidarité entre États était un slogan, elle ne s'est pas manifestée dans la pratique, a déclaré Dimitri Avramopoulos. Il estime que les choses vont changer et entend relancer les programmes européens d'installation des réfugiés. Il dit également vouloir redéfinir les conditions d'entrée légales et sécurisées pour les personnes qui fuient les conflits. Bon, de belles promesses. Très légal, légaliste certes, mais on verra déjà s'il peut l'appliquer au sein de l'Union européenne, parce que je pense que il est un peu tout seul à porter ça.
Il faut que ça se sache.
Dans la mesure où il le porte réellement, parce que on va voir. Mais là, c'est une des choses qui se joue en Grèce en ce moment, c'est la politique vis-à-vis des centres de rétention. Alors, samedi dernier, près de 300 manifestants se sont introduits dans un camp de rétention près d'Athènes. Bon, ils n'y sont pas restés bien longtemps. Un camp de rétention où sont détenus des centaines de migrants sans papier. Et les manifestants demandaient donc la fermeture de ce camp de rétention et des camps de rétention d'une manière générale, conformément aux promesses du nouveau gouvernement grec. Donc ces manifestants qui étaient rassemblés à l'appel de plusieurs organisations des droits humains et de soutien aux migrants... on franchit l'entrée principale du site de ce camp de rétention qui s'appelle Amygdalesa et on atteint des grilles derrière lesquelles des dizaines de migrants étaient aussi dehors en train de manifester et les ont accueillis avec des applaudissements et au cri de Syriza, donc le parti qui a gagné les élections en Grèce là. Les centres de rétention nulle part jamais ont chanté les manifestants qui marchaient derrière une banderole qui disait les camps de rétention ne peuvent pas être améliorés, ils doivent être détruits. Finalement, la police syrisienne les a refoulés vers la sortie. Alors, il faut savoir que ce camp de rétention d'Amygdalesa est l'un des pires qui existent en Grèce. Il faut savoir que le gouvernement a dit aux manifestants qu'il avait besoin de 100 jours, donc 3 mois, pour fermer ce centre, alors que les manifestants, eux, trouvaient qu'il n'y avait pas de raison d'attendre 100 jours, que c'était quand même relativement facile avant de le fermer, de commencer par l'ouvrir en grand, tout le monde sort, et puis ciao. Le gouvernement, lui, a confirmé son intention de fermer les centres de rétention. Il avait confirmé cette intention le 14 février dernier, juste après qu'un migrant pakistanais se soit suicidé dans ce camp d'Amygdalesa. Mais le problème de Syriza, c'est que quand bien même il serait réellement entièrement bien intentionné là-dessus, ce qui est possible, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, pour des petites histoires de cuisine politique intérieure, comme ils n'avaient pas la majorité absolue pour ce qu'ils considèrent comme leur mission principale quand même, qui est cette histoire, toute l'histoire autour de la dette grecque, ils se sont alliés entre autres à ce parti qui s'appelle les Grecs indépendants, qui est un parti de droite souverainiste, donc l'équivalent en France, ça serait Dupont-Aignan ou des gens comme ça, là. Et qui, pour ce parti, lui, est plutôt favorable à un contrôle très très strict de l'immigration. Et donc les associations de droits humains en Grèce craignent que le gouvernement n'ait du mal à avancer sur la question des centres de rétention avec cet allié-là.
Et puis on peut rajouter que la Grèce est un peu le fer de lance dans Frontex, la lutte contre... Enfin bon, ils servent un peu de zone tampon à l'Europe.
Et ben c'est ça, c'est un des principaux, enfin c'est le pays par lequel il y a des tonnes et des tonnes de migrants qui rentrent. Il faut savoir aussi que la Grèce, du coup, à cause de cette place, et donc le nouveau gouvernement, il me semble, c'est dans un article que j'ai plus sous les yeux, voulait essayer de renégocier des trucs sur Dublin 2, qui est donc,
Je l'ai lu aussi.
C'est ça, qui est donc cette fameuse directive de la honte là, mais qui dit entre autres que un migrant qui arrive en Europe, le premier pays dans lequel il pose les pieds est le pays qui doit gérer ce migrant. Et donc quelqu'un qui arrive en France en camion de Turquie, par exemple, pour peu qu'il soit descendu pisser du camion en Grèce, de France, il est renvoyé en Grèce et c'est à la Grèce de décider de lui accorder ou non un asile, etc. etc. Et donc comme la plupart, ils rentrent par la Grèce, mais effectivement la Grèce se retrouve... Ils se retrouvent à gérer des tonnes et des tonnes de migrants.
Mais la Grèce, je peux me permettre une petite aparté, que ce soit sur l'immigration ou sur du coup là la dette et ils ont pas, ils sont quand même vraiment contraints par l'ensemble de l'Union européenne. Et du coup là, par exemple, on l'a pas traité dans ce journal, mais hier pour pouvoir rester dans l'Union européenne par rapport à la dette, ils ont dû remettre en question Syriza, une partie des choses sur lesquelles ils s'étaient fait élire, notamment sur des politiques sociales autour du 13e mois, du nombre d'heures de travail par semaine, etc. Et du coup, ce qui fait que ça rend, comme tu disais, on ne sait pas leur bonne foi là-dedans, mais ça, eux, ça complexifie de mettre en place leur programme politique, en tout cas.
Il faut que ça se sache.
Ah, et ben voilà, il est 19h30, ce Canyon Info touche à sa fin.
Et ben on va vous laisser avec 30 minutes de bande continue avant... Peut-être sûrement de retrouver l'émission Idée Noire, l'émission de la
coordination. Il n'y a personne qui a un bon plan à signaler pour un bon petit truc à faire demain, après-demain, ce week-end.
Ben non, il n'y a plus d'atelier, il n'y a plus rien à faire. Ah ouais. On va tous mourir.
Et ben, en tout cas, il y a un agenda sur rebellion.info à retrouver. Et il y a.
Alors, croyez pas non plus qu'on va faire le boulot pour vous.
Voilà. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.